Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la croisée entre santé humaine, santé animale et environnementale, la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques, ou dit autrement, l'antibiorésistance. Cette résistance peut être qualifiée de naturelle, avec des bactéries naturellement insensibles à certaines antibiotiques, mais elle peut également être acquise. Elle résulte alors d'un usage inadapté des antibiotiques, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Lorsque les antibiotiques sont utilisés de façon répétée, massive, ou lorsqu'ils sont mal utilisés, traitements trop courts, trop longs, mal dosés, les bactéries développent des systèmes de défense contre ces antibiotiques et deviennent résistantes. Et de fait, aujourd'hui, l'usage des antibiotiques est très important, particulièrement en France. Ainsi, malgré une baisse continue depuis 10 ans de la prescription des antibiotiques, la France reste le 4e pays européen le plus consommateur, derrière la Grèce, la Bulgarie ou la Roumanie. Par ailleurs, côté élevage des animaux, l'utilisation des antibiotiques reste majeure et de façon préventive pour éviter les maladies. 2/3 des antibiotiques utilisés dans le monde le sont pour des animaux. Dans ce contexte, on trouve des antibiotiques un peu partout, dans notre alimentation, dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Et l'antibiorésistance augmente. Un article publié en 2022 dans The Lancet a révélé qu'en 2019, plus d'1,2 million de personnes étaient décédées d'infections causées par des bactéries antibiorésistantes, soit plus que le paludisme ou le sida. Alors comment limiter la résistance des bactéries aux antibiotiques ? Cette antibiorésistance n'est-elle pas l'occasion de remettre en cause notre modèle de production intensif et de consommation ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Jean-Yves Madec, directeur scientifique antibiorésistance de l'ANSES, Agence nationale de sécurité alimentaire, mais aussi coordinateur du centre de référence sur l'antibiorésistance à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Alors, je m'appelle Jean-Yves Madec, effectivement, je suis vétérinaire, scientifique également, je suis directeur de recherche et je dirige une équipe qui travaille sur les mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques. Et je coordonne un certain nombre de l'ensemble des activités qui se déroulent à l'ANSES dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on appelle ça un axe antibiorésistance, donc je suis directeur scientifique de cet axe-là. Et donc, je suis aussi en interaction avec les interlocuteurs de l'ANSES, que sont les pouvoirs publics, les ministères, et puis au-delà, en Europe, et puis dans le reste du monde aussi. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser sur la question de l'antibiorésistance ?
Ce qui m'y a amené, c'est une opportunité professionnelle. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai travaillé sur la vache folle, qui est aussi un problème d'alimentation.
Ouais.
Et ensuite, quand il n'y avait plus grand-chose à faire parce que le sujet était cadré, j'ai eu l'opportunité de changer de sujet, de prendre le poste de quelqu'un qui partait à la retraite et donc de reprendre la coordination d'une unité qui travaillait sur un autre sujet et il s'est trouvé que c'était la résistance aux antibiotiques. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer de façon simple en quoi consiste l'antibiorésistance ? Comment ça fonctionne ?
Alors, l'antibiorésistance... C'est une propriété des bactéries à résister à l'action d'un antibiotique. Toutes les bactéries, c'est tout simple. Imaginez que vous êtes une bactérie, vous êtes dans un environnement où il y a des antibiotiques. Ben, si vous êtes une bactérie antibiorésistante, vous allez résister, même avec la présence d'antibiotiques autour de vous. Et donc, il y a des bactéries qui sont naturellement résistantes à certains antibiotiques, pas à tous, mais à certains. Et puis, il y a des bactéries qui sont sensibles à des antibiotiques, mais qui d'un coup vont devenir résistantes parce que, et c'est ce phénomène-là de résistance acquise, c'est-à-dire une bactérie qui ne l'était pas avant, qui le devient. Et donc, le phénomène d'antibiorésistance dont on parle aujourd'hui et ailleurs, quand on parle d'antibiorésistance, on ne s'intéresse pas vraiment à l'antibiorésistance naturelle, parce que celle-là, on ne va pas changer la nature, on s'intéresse à ce qui se passe dans des bactéries qui étaient sensibles et qui ne le sont plus. Voilà. Donc, c'est ça une bactérie résistante. C'est une bactérie qui résiste à l'action d'un antibiotique.
Une fois que les bactéries ont acquis cette résistance aux antibiotiques, est-ce qu'on peut faire marche arrière ? Est-ce qu'elle peut ne plus être résistante à l'antibiotique ?
Oui, oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Enfin, c'est quelque chose de porteur d'espoir. Parce que la bactérie n'est pas antibiorésistante à vie. En fait, la bactérie devient résistante parce que c'est une forme d'adaptation à un milieu qui la contraint à survivre en présence d'antibiotiques. S'il n'y a plus d'antibiotiques autour d'elle, elle n'a pas plus d'avantages compétitifs, j'allais dire, par rapport à une bactérie qui est sensible. Donc en fait, elle est capable de revenir à l'état sensible. Et ça, on le voit très bien. Quand on arrête d'utiliser des antibiotiques, on revoit les bactéries redevenir sensibles. Et comment elles redeviennent sensibles ? Parce que dans la population des bactéries en général, elles deviennent minoritaires, donc on les voit moins. Elles peuvent aussi perdre du matériel génétique qui leur permet d'être résistantes et du coup redevenir sensibles. Donc oui, la réponse est oui, effectivement. Mais c'est quelque chose de largement partagé. Une des stratégies pour lutter contre la résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est de faire en sorte de revenir à un état de sensibilité plus important des populations de bactéries.
Et comment on fait ça ?
En épargnant davantage l'usage des antibiotiques, en les utilisant moins. En gros, en arrêtant d'inonder trop les bactéries de notre environnement, de notre corps, de nos corps, animaux et humains, par des antibiotiques. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'environnement des bactéries soit moins contraignant avec une présence d'antibiotiques. Donc il faut... Concrètement, il faut utiliser moins d'antibiotiques.
Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est malade, qui a besoin d'antibiotiques, et imaginons que cette personne ait des bactéries multirésistantes à ces antibiotiques, est-ce que ces bactéries-là peuvent redevenir sensibles aux antibiotiques si on ne la soigne pas ?
Alors, la question n'est pas de ne pas soigner quelqu'un. D'accord. Et donc, on soigne quelqu'un avec des antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont des molécules vraiment miracles. Si on vivait dans une ère sans antibiotiques, on serait quand même très, très mal. Hein. Parce qu'il y a tout un tas de maladies infectieuses, bactériennes, dont on n'entend plus parler, ou pour lesquelles dont on se soucie plus parce qu'on a les antibiotiques. Donc, quand quelqu'un est malade d'une infection bactérienne et que ça nécessite des antibiotiques, il faut utiliser des antibiotiques. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a une bactérie résistante dans son corps à ce moment-là ? Avant qu'on utilise des antibiotiques, si j'ai bien compris la question. Oui, elle peut très bien avoir une bactérie résistante dans son corps. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de l'antibiorésistance, c'est que quelqu'un qui n'a jamais été exposé aux antibiotiques peut très bien avoir des bactéries résistantes dans son corps. Parce que les bactéries sont un peu partout, parce qu'il peut les acquérir par différentes voies, mais un staphylocoque résistant, ça peut s'acquérir par inhalation, par toucher, par contact. On peut transmettre la résistance aux antibiotiques. Donc, quelqu'un qui est traité, mais qui a déjà une bactérie résistante dans son corps, tout dépend en quoi elle est résistante. Effectivement, ça peut être un problème, ça peut conduire à un échec thérapeutique éventuellement, si la bactérie qu'elle a dans son corps, cette personne, est résistante à l'antibiotique qu'on utilise pour la traiter. Donc oui, ça peut arriver.
Et échec thérapeutique, ça veut dire, parce que là on l'a vu, de millions de morts potentielles, ça veut dire mourir forcément ?
Oui, ça veut dire mourir. On peut mourir. Dans ces chiffres-là, il y a une mortalité qui est... on peut distinguer deux types de mortalité. Celle qui est attribuable à l'antibiorésistance, c'est-à-dire que c'est à cause de la résistance de la bactérie que la mort survient. Et puis, il y a celles qui sont associées à l'antibiorésistance, c'est-à-dire que chez un patient âgé qui a de nombreuses pathologies, ce patient peut mourir d'autre chose et rien n'interdit qu'il y ait aussi une bactérie antibiorésistante qui soit présente dans son corps, mais qui ne soit pas nécessairement directement liée à la mort. Donc, il y a attribué et associé. Mais effectivement, dans la part qui est attribuée, ce qui est le chiffre que vous avez donné là, ça veut dire qu'on peut se trouver dans des cas d'échec thérapeutique, c'est-à-dire avoir une infection grave avec une bactérie qui est résistante à l'ensemble des antibiotiques dont dispose le médecin.
Ok, je voudrais revenir un peu sur ce qu'est un antibiotique et depuis quand elle existe cette résistance. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis quand existent les antibiotiques ? à quoi ils servent et depuis quand c'est un enjeu, cette question d'antibiorésistance?
Alors, les antibiotiques sont des molécules qui existent partout autour de nous dans la Terre, produites par des micro-organismes. C'est aussi quelque chose de naturel, les antibiotiques. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est complètement artificiel. Par contre, l'homme, un jour, a compris que les antibiotiques pouvaient lui servir à quelque chose, à lutter contre les maladies infectieuses. Donc, un jour, et notamment Fleming, qui a découvert la pénicilline, s'est rendu compte que certains champignons produisaient de la pénicilline et que la pénicilline arrivait à tuer le staphylocoque. De là, et donc ça, c'est, on va dire, c'est les années 30, Fleming, 1928. On va dire que le boom des antibiotiques, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où la production de pénicilline a été faite massive, a été lancée massivement industriellement aux États-Unis, et où tous les GI américains venaient en Europe avec de la pénicilline dans leur paquetage. Et cette pénicilline a été d'ailleurs un élément parmi d'autres de la survie, enfin de la lutte contre la mortalité sur le champ de bataille. Donc, faut la dater à la... Bon, on avait des antibiotiques avant, c'était plus confidentiel. Les sulfamides sont plus anciens, par exemple, début du siècle. Mais on va considérer qu'après la découverte de la pénicilline, il y a eu un énorme boom. Et ensuite, la Deuxième Guerre mondiale... on situe ça à peu près à la moitié du siècle dernier. Et ensuite, il y a eu un développement industriel colossal entre les années 50, 60, jusqu'aux années 2000. Puis après, ça s'est tari. Donc, l'ère vraiment, l'âge d'or des antibiotiques, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Et donc, tu me posais une question.
Depuis quand c'est un problème, la question?
Depuis quand c'est un problème? Depuis toujours, en fait. Parce que la résistance à un antibiotique donné apparaît très rapidement après l'usage de l'antibiotique. Par exemple, je cite un antibiotique comme la méticilline, parce qu'on parle souvent des staphylocoques dorés résistants à la méticilline. La méticilline, elle a été mise sur le marché en 1960, et les premiers staphylocoques résistants, c'était en 61. Enfin, c'est de l'ordre, ça peut être plus, ça peut être moins, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est de fait un problème, la résistance antibiotique, parce que tout usage antibiotique sélectionne la résistance, même si l'usage est bien conduit. C'est quelque chose d'inévitable. Parce que là, il y a des bactéries résistantes qui existent et qui vont émerger, on va dire, parce qu'en présence d'antibiotiques, la grande majorité sera sensible. Et puis, il y aura des bactéries qui seront résistantes et qui vont prendre le pas et qui ensuite vont faire en sorte que la résistance va être beaucoup plus apparente et qu'on va considérer que l'antibiotique... est devenu inefficace ou moins efficace. Et ça peut aller très très vite. En une année, on peut avoir un antibiotique qui sort du marché, qui sort de la clinique, parce qu'on considère que... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la pénicilline. Le staphylocoque doré était responsable de bactériémie, d'infections hyper sévères avant la pénicilline. Quand la pénicilline est arrivée, la mortalité est passée de 80% à 20%, donc c'était un vrai miracle. Et ensuite, très rapidement, elle est remontée à 50% dans les années qui ont suivi, parce que des staphylocoques résistants, devenus résistants à la pénicilline, ont émergé. Et donc là, la stratégie publique, on va dire publique-privée, c'était d'avoir recours à l'industrie qui, chaque fois, essayait de trouver un nouvel antibiotique. Donc, quand on a des staphylocoques résistants à la pénicilline, on cherche un autre antibiotique et auquel la bactérie n'est pas encore résistante. Ça marche un moment, et puis ensuite, ça redevient un problème, etc. Et ce qui a vraiment sauvé ce phénomène évolutif naturel d'une bactérie, voilà, c'est la puissance industrielle de l'époque, qui était colossale, avec des découvertes, avec de l'innovation très très importante, des nouvelles molécules, des nouvelles familles de molécules, des nouveaux mécanismes d'action. Enfin, c'était une période d'innovation très très forte. Mais la stratégie générale, si on prend un peu de recul, c'est de dire ça marche plus, j'en trouve un autre. Voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on trouve des nouveaux antibiotiques?
Alors, aujourd'hui, on pourrait trouver des nouveaux antibiotiques. Il y a des équipes de recherche qui en trouvent, qui travaillent là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit encore ces derniers temps, on a des startups qui développent des nouveaux antibiotiques, mais ces nouveaux antibiotiques ne sont pas repris massivement par les grands groupes industriels. C'est-à-dire, en gros, l'industrie aujourd'hui n'investit plus du tout comme elle investissait dans la deuxième partie du XXe siècle, parce que l'industrie s'est tournée vers des molécules plus rentables. Et donc, le modèle économique pour l'industriel n'existe plus. On se parle maintenant d'antibiotiques qui sont des molécules qu'on va prescrire moins longtemps, qui sont très souvent réglementées, où on sent bien qu'on va les épargner quand elles vont être disponibles. Et donc, du coup, d'un point de vue purement économique, l'industriel ne prend pas le risque de financer de la recherche et développement pendant 15 ans pour sortir un produit qui va finalement ne pas se vendre et ne pas avoir un retour sur investissement. Donc l'industriel se tourne beaucoup plus vers des molécules maintenant, des antidépresseurs, des bêta-bloquants, des médicaments que les gens prennent longtemps et dont on peut prédire que l'efficacité va perdurer, parce qu'un antibiotique, c'est très vite périssable, puisque très rapidement, on a aussi des résistances qui apparaissent, en dehors de ce que les pouvoirs publics peuvent mettre comme contrainte. Donc aujourd'hui, l'innovation peut exister au niveau de la recherche, mais de là à dire qu'on va avoir de nouveaux antibiotiques utilisables massivement pour traiter les populations en général, ça c'est non.
Mais c'est terrible, parce que l'OMS nous dit que c'est potentiellement la prochaine première cause de mortalité.
Oui.
Du monde.
Ben ça, c'est un sujet qu'on a débattu il n'y a pas très longtemps lors d'un colloque sur les enjeux politiques de l'antibiorésistance. Et notamment, c'était un colloque qui était partagé avec le CEVIPOF, une centre de recherche de Sciences Po. Et les politologues s'interrogent beaucoup sur pourquoi ce sujet n'est pas visible. Il y a eu un rapport très connu, je ne sais pas si toi tu le connais, mais enfin les gens qui sont dans le domaine vraiment le connaissent, le rapport O'Neill, qui a dit que ben, voilà, c'est celui qu'on cite très souvent, à l'horizon 2050, 10 millions de morts par an, plus que beaucoup de maladies infectieuses cumulées, etc., première cause de mortalité, et ça ne fait pas bouger vraiment beaucoup, quoi. Et donc la mise en visibilité politique de ce sujet-là, elle n'y est pas. Voilà, les gens ne parlent pas d'antibiotiques. Alors, bon, ils ont étudié un petit peu, on a discuté, on a débattu des raisons possibles à ça. Hein. Notamment le fait que la résistance antibiotique n'est pas une maladie. Il n'y a pas un collectif de patients qui va se mobiliser comme ils se mobilisent pour le cancer. C'est quelque chose d'assez diffus. Preuve en est que ça fait pas peur vraiment, je pense. Je pense que les gens voient pas ça comme une menace très concrète pour eux. Bref, il y a un manque de visibilité.
Ouais. Les pouvoirs publics aujourd'hui, en tout cas, n'investissent pas sur ce sujet.
Ah non, on peut pas dire ça. D'abord, on peut pas dire ça partout dans le monde.
D'accord.
Notamment l'Europe s'investit beaucoup. C'est probablement le continent qui est le plus avancé dans la matière. Et puis si je prends l'exemple de la France, les politiques publiques en France sont très dynamiques. Et puis bon, moi qui suis vétérinaire et connais bien les politiques publiques dans le domaine animal, les plans éco-antibio, comme on les appelle, on a fait en France deux plans éco-antibio, 5 ans chacun, éco-antibio 1 et 2. Éco-antibio 3 a été annoncé par le ministre de l'Agriculture vendredi dernier, pour encore 5 ans. C'est une politique publique extrêmement forte, volontariste, avec des résultats, puisqu'on a eu une baisse de l'exposition des animaux de plus de 50% en 10 ans. Et sur les antibiotiques qui sont d'importance forte pour la médecine humaine, qui, bon, sans rentrer dans le détail, sont les céphalosporines et les fluoroquinolones, ça a été moins 90%. C'est colossal, c'est-à-dire que ce sont des antibiotiques qui sont quasiment plus utilisés en médecine vétérinaire, en tout cas, il en reste 10% d'exposition. Et donc ça, c'est vraiment une politique publique qui a porté des fruits vraiment très, voilà, très efficaces.
Mais une politique publique qui incite, voire qui oblige à réduire l'usage des antibiotiques, mais pas une politique publique qui investit dans la création de nouveaux antibiotiques.
Non, mais ça, c'est du domaine du privé, l'innovation. Alors, on pourrait imaginer des mécanismes d'accompagnement. On pourrait imaginer... d'ailleurs, dans le rapport O'Neill, qui est d'ailleurs lui un économiste, il imaginait des scénarios pour essayer de faire en sorte qu'on puisse définir l'antibiotique comme un bien commun qui transcende les concurrences entre boîtes pharmaceutiques aussi, hein, qu'il soit suffisamment bien commun pour l'humanité pour qu'on puisse en... Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. On a des incitations... avant la mise sur le marché, mais ensuite il manque quand même il manque une réappropriation par l'industrie qui aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui est très clair et personne n'y va, quoi, en gros.
Tu nous as dit que c'était pas pareil suivant les États, Quels sont aujourd'hui les pays qui sont le plus touchés par les questions d'antibiorésistance?
Alors, ça, c'est aussi des données assez macro qu'on peut trouver dans ce rapport ONIL. Les pays ou les continents qui sont les plus touchés sont le sud-est asiatique, l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud.
Pourquoi ?
L'Afrique. Alors, pour des raisons différentes, notamment l'Inde est un pays où, bon, on en a parlé aussi pendant l'épidémie de la Covid, hein, où on parlait de la disponibilité des médicaments. On n'ignore pas que tous les médicaments sont fabriqués là-bas, qu'il y a aujourd'hui plus d'usines de production d'antibiotiques en Europe. Tout est délocalisé là-bas. Donc, on se trouve dans un pays, par exemple, si je prends l'exemple de l'Inde, sans vouloir stigmatiser du tout, hein, mais il y a d'autres pays aussi en Asie du Sud-Est. Tous les pays d'Asie du Sud-Est sont à peu près au même niveau. On est dans des pays où on a la production d'antibiotiques qui se fait là, avec des normes de rejet dans l'environnement qui sont absentes, en tout cas pas du tout celles que l'on a en Europe. Donc on a aussi une exposition des écosystèmes très forte. On a une densité de population aussi extrêmement importante. On a une proximité homme animal qui est aussi bien importante. On a des niveaux d'hygiène qui sont très différents de ce qu'on peut avoir en Europe. On a une absence de prescription pour contrôler l'usage des antibiotiques parce qu'on peut trouver dans la rue, en Inde, des antibiotiques qu'on trouve sous clé à l'hôpital en France.
Ah oui ?
Oui. Alors l'Inde n'est pas du tout le seul pays. Hein. On peut trouver, moi j'ai travaillé avec d'autres collègues en Moyen-Orient où on peut très bien acheter des antibiotiques au Liban par exemple. En ville, à Madagascar, on peut trouver... Bon,
sans ordonnance.
Sans ordonnance, voilà.
Donc, à Madagascar ?
Oui, aussi, oui. Donc, le contrôle par la prescription est quand même un point important. Et donc, voilà, ben, quand un pays cumule tous ces facteurs de risque, ben, au bout d'un moment, les bactéries résistantes sont au paradis dans ce genre de pays. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très, très inégal. Et donc, d'ailleurs voyager dans ces pays est un facteur de risque. De ramener une bactérie. Quand je disais qu'on pouvait très bien ne pas avoir utilisé d'antibiotiques, mais être porteur d'une bactérie multirésistante, bah, c'est cet exemple-là. J'ai un collègue à Paris qui a regardé la prévalence des bactéries résistantes chez les gens en fonction de leur destination à l'aéroport au retour de leur destination de voyage, de vacances. Et donc, la proportionnalité est cohérente avec la situation du pays en question, de l'endroit en question, ouais.
Incroyable. Pour la petite histoire, j'ai eu une bactérie multirésistante. C'est la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous revenez d'Inde ?
Ben oui. Ouais. Enfin, d'Inde, voilà. En tout cas, est-ce que vous revenez de voyage ?
Ouais.
Et même lorsqu'on analyse un peu quel type de bactérie multirésistante c'est, on peut même avoir des idées sur quel type de pays ou de zone.
Ah oui ?
Oui, parce que les mécanismes de résistance peuvent être... en Inde, on aura plutôt ce type-là. Dans le Maghreb, on aura plutôt cet autre type-là. Donc, en fonction de... Il peut y avoir des associations comme ça. Donc oui, c'est tout à fait logique de savoir si la personne a voyagé dans les 3 derniers mois.
Comment évolue aujourd'hui notre usage des antibiotiques ? Tu l'as un peu dit avec les plans qu'il y a eu, notamment en France. Mais en France versus à l'étranger, est-ce qu'on a une réduction quand même de ces usages ?
Oui, on a une réduction de ces usages, mais elle est vraiment différente, comme je disais, entre l'Europe et le reste du monde, je dirais. En Europe, on a chaque pays, d'ailleurs chaque pays dans le monde devrait avoir un plan d'action. C'est l'OMS qui a dit ça. C'est pas le cas partout. Mais en Europe, il y a des plans d'action dans tous les pays. Normalement, ces plans d'action devraient être une seule santé, on va dire, en tout cas intersectorielle. Il devrait y avoir des actions à la fois en agriculture, chez l'homme, etc. Et donc, chaque pays en Europe n'est pas forcément au même niveau d'avancement. Traditionnellement, les pays du Nord sont des pays qui sont plus vertueux en termes d'usage des antibiotiques et qui donc l'ont été concrètement parce qu'ils ont mis en place des mesures avant d'autres. Ensuite, il y a eu les pays du milieu, je dirais, dont la France fait partie. Et puis ensuite, les pays du Sud, qui sont encore ceux qui dépassent la France dans la consommation d'antibiotiques, mais qui font des efforts aussi. Bon, voilà. Donc, je dirais que le continent européen est un continent qui est en bonne marche. Dans d'autres continents, on a une absence, une absence parfois de mesures. Hein. J'ai cité l'Inde, Et puis, il y a des situations un peu paradoxales parfois, parce que, là encore, moi qui connais bien le domaine agricole, on sait qu'il y a des usages antibiotiques par prévention, on l'a dit, hein, comme facteur de croissance dans le monde, c'est-à-dire pour faire grossir les animaux et non pas pour les traiter. Et donc, ça fait partie de la... je dirais, s'il n'y en avait qu'une à retenir, c'est la ligne force qui est souhaitée par tous les pays qui ont arrêté, dont la France et l'Europe. Hein. L'Europe a arrêté d'utiliser les antibiotiques facteurs de croissance depuis 2006. Donc, ça fait longtemps maintenant. Et c'est même certains pays du Nord avaient commencé avant. Et donc, elle milite dans les débats internationaux pour que tous les pays arrêtent de faire ça. Et c'est pas gagné. Et c'est pas forcément... les pays qui sont à faible revenu qui font ça. Parce que, par exemple, les États-Unis le font. Voilà. Et donc, c'est là que je voulais pointer le paradoxe, parce que les États-Unis le font parce que la démonstration que s'ils arrêtaient, il y aurait moins de morts à l'hôpital liées à l'antibiorésistance, c'est-à-dire, en gros, que cette mesure-là prise dans l'agriculture aura un impact direct sur la mortalité à l'hôpital, est très compliquée à mettre en évidence. La preuve, en France, c'est un peu pareil, parce que en France, la politique éco-antibio en agriculture a fait chuter drastiquement l'exposition des animaux aux antibiotiques d'importance chez l'homme. Et on ne sent pas qu'on a une baisse de la résistance chez l'homme qui soit proportionnelle, voire même du tout liée à ce qui s'est passé en agriculture. Donc le lien entre les secteurs, même si on parle d'une seule santé, il n'est pas si clair. Donc moi, à titre personnel, et on est nombreux à penser ça, je trouve logique qu'il y ait un impact ou qu'il n'y ait pas d'impact, on fasse attention à l'usage des antibiotiques, parce que d'abord, il peut très bien y avoir un impact qu'on ignore, qu'on verra plus tard, mais je trouve ça responsable d'utiliser les antibiotiques de façon raisonnée, quel que soit ce qu'il peut y avoir comme impact. Mais par contre, il y a d'autres pays, dont les États-Unis, qui s'en servent comme un argument, en disant « pourquoi je ferais ça ?» si vous ne me démontrez pas qu'il y a un impact. Voilà.
Alors, ça m'amène plusieurs questions. Déjà, ces antibiotiques facteurs de croissance,
oui.
Ça veut dire que c'est des antibiotiques qu'on donne de façon préventive pour pas que les animaux tombent malades, ou c'est des antibiotiques qu'on donne qui vont permettre de faire grossir les animaux?
C'est un peu les deux, parce que alors c'est fondé sur rien, le fait que ça fasse grossir les animaux, c'est sans doute un peu vrai. Il y a des antibiotiques qui peuvent booster un petit peu la physiologie, mais c'est principalement une béquille à des défauts d'hygiène et de système de production. Donc, facteur de croissance, effectivement, ça fait grossir les animaux, mais on ne sait pas trop faire la différence entre ce qui vraiment ferait grossir les animaux dans des conditions standards, est-ce que ou plutôt si ça aide l'animal à grossir mieux, parce qu'en même temps, il passe moins d'énergie à se défendre contre d'autres microbes. Voilà. Donc, c'est une espèce de cumul. Donc, on appelle ça facteur de croissance. Facteur de croissance est préventif, des fois, ça se chevauche, mais c'est pas forcément la même chose. D'ailleurs, l'Europe, l'année dernière, a interdit, donc on est encore en Europe, l'utilisation des prémélanges médicamenteux en préventif dans les filières animales. Parce que vous savez sans doute que l'usage des l'antibiothérapie chez une poule ou chez un cochon, se fait pas. Enfin, quand on est en médecine collective, on fait pas ça animal par animal. Lorsqu'on a un élevage de 20 000 poulets, il est hors de question de leur donner un antibiotique un par un. Donc, par exemple, l'eau de boisson fait partie des façons d'administrer un antibiotique à un collectif d'animaux, par exemple des volailles. Et donc, pour ça, on a des aliments médicamenteux qui sont constitués d'un pré-mélange médicamenteux et d'un aliment. Et désormais, il est interdit d'utiliser des prémélanges médicamenteux qui contiennent des antibiotiques en prévention. Et ça fait chuter de 80% l'exposition des animaux. Donc, très clairement, les pays, donc l'Europe a fait ça, les pays qui font ça, ils font drastiquement chuter l'usage des antibiotiques en préventif. Mais vous allez au Brésil, qui est le premier, si ce n'est dans les premiers exportateurs de poulets au monde, vous avez des sacs d'antibiotiques qui sont dans les élevages et qui sont mis directement dans la nourriture des poulets. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose contre quoi il faut lutter et qui est problématique. Alors, c'est problématique. Après, il y a d'autres mesures qui font que le consommateur français, par exemple, n'est pas exposé à ça, parce que le poulet brésilien, vous ne l'avez pas sur l'étalage. Le poulet brésilien, il est importé, mais il est transformé. transformer en produits, en nuggets, en pizza, etc. Donc, ça veut dire que si vous achetez du poulet à l'étalage, vous allez avoir du poulet français. Donc, on a une autre façon de...
Mais on le mange au final.
Voilà, on le mange, mais il n'y a pas d'anti... C'est pas comme si il y a plus de bactéries avec des résistances aux antibiotiques qu'une fois qu'il est transformé en pizza. C'est ça que je veux dire. Vous avez plus.
Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais il a toujours l'antibiotique. Enfin, on consomme toujours l'antibiotique quand on le consomme.
Non plus. Donc c'est une mesure de précaution. De la même façon, l'Europe a interdit l'importation des denrées alimentaires d'origine animale lorsque les animaux sont issus de pays où l'usage des antibiotiques comme facteur de croissance est en place. C'est-à-dire qu'il faut que les pays démontrent qu'ils ont mis en place une législation ou enfin quelque chose qui fait en sorte que dans leur pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'ils ont arrêté. S'ils n'arrivent pas à le démontrer, la denrée alimentaire ne rentre pas en Europe. Voilà. Et donc, l'Europe est dans le process de faire la liste des pays qui auront démontré ça. C'est très difficile de faire la liste miroir de ceux qui ne l'ont pas fait, mais par contre, par opposition, on peut imaginer que les pays qui ne sont pas dans la liste positive de ceux qui ont mis en place... sont identifiés quand même, de fait. Voilà. Et donc, cette mesure de précaution a été faite pour le consommateur européen pour éviter que des denrées alimentaires issues de ces pays-là viennent. Voilà.
Ok, ça m'amène deux questions. La première, c'est sur ce lien animal-humain. Les États-Unis nous disent que ce n'est pas démontré que ça va réduire l'antibiorésistance pour les humains. Mais derrière, on sait quand même que si on utilise massivement des antibiotiques pour les animaux, ça va avoir un effet sur le microbiote humain. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous me dites, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand on mange des animaux qui ont été traités, on ne mange pas d'antibiotiques.
Et oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça c'est une question qu'il faut clarifier pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on va en supermarché, qu'on voit du poulet sans antibiotiques. J'en discutais encore ce matin dans un autre colloque. J'ai fait un sondage dans le public pour savoir qui c'est qui a acheté ça et pourquoi. Et je comprends tout à fait ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est une démarche vertueuse pour consommer de la viande sans antibiotiques. Et en fait... C'est une mauvaise compréhension du logo, parce que quand on achète du jambon sans antibiotiques, ça sous-entend que s'il n'y a pas ce logo-là, le jambon d'à côté, qui ne l'a pas, a des antibiotiques. Et ça, c'est totalement faux. Dans la viande, il n'y a pas d'antibiotiques. Et la raison que l'animal ait été traité aux antibiotiques ou pas, parce que il y a un délai d'attente qui existe entre le dernier traitement antibiotique et l'abattage de l'animal. On ne peut pas envoyer à l'abattoir un animal qui est sous traitement antibiotique. On doit l'envoyer une fois que le délai d'attente est écoulé, et ce délai d'attente, il a pour objectif justement que l'antibiotique s'épure du corps de l'animal, et que l'animal, quand il arrive à l'abattoir, n'ait plus d'antibiotique. Donc que l'animal vienne d'une filière bio, pas bio, ou voilà, qu'il ait été traité dans sa vie aux antibiotiques, on ne mange pas d'antibiotiques. Par contre, on peut manger des bactéries résistantes aux antibiotiques, ce qui est quelque chose de différent, parce que le poulet n'est pas stérile. Donc, si l'environnement contient des bactéries résistantes, il peut y en avoir sur la surface du poulet. D'ailleurs, il y a tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus. Si vous écouvillonnez la surface d'un poulet, vous pouvez trouver des bactéries résistantes. Bon, on en trouve de moins en moins maintenant en France, ce qui montre quand même que ça a un impact, y compris jusqu'aux produits alimentaires. Mais voilà, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande.
Et le risque par rapport à ces bactéries multirésistantes, est-ce que elle vient essentiellement du fait que ça peut passer de l'animal à l'humain ou pas particulièrement ? C'est-à-dire qu'une bactérie multirésistante se développe côté animaux et qu'elle migre vers l'humain ou l'inverse, ou pas particulièrement, c'est...
Si, ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre, ça faut vraiment le dire. Il y a des bactéries qu'on trouve chez l'homme et qui sont transmises aux animaux, et des bactéries qu'on trouve chez l'animal qui sont transmises à l'homme. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les deux secteurs sont quand même largement responsables de la résistance qui se trouve chez eux. Le gros de la résistance chez l'animal, c'est l'animal qui le sélectionne. Le gros de la résistance chez l'homme, c'est des comportements humains qui le sélectionnent. Mais ça ne veut pas dire que les mondes sont séparés. Et c'est ça qui est des fois un peu confusant, j'allais dire. C'est que quand on parle d'une seule santé, on a un peu l'impression parfois que c'est tout mélangé, quoi, que tout le monde se transmet tout, etc. Mais en fait... Il y a des passerelles entre les mondes qu'il ne faut pas ignorer du tout, parce qu'elles peuvent être vraiment très importantes en termes de conséquences, mais ça reste des passerelles et c'est pas des vases communicants. Voilà. Un exemple de passerelle, au début des années 2000, il y a eu des staphylocoques du porc qui ont été transmis à l'homme aux Pays-Bas. Ben voilà. Par exposition professionnelle, on peut avoir, quand on est éleveur de porc, vétérinaire dans le porc, travailler dans les abattoirs de porc, on peut être exposé au staphylocoque du porc et déclencher une infection ou un portage lié à une bactérie qui pourrait être résistante aux antibiotiques, qui vient du porc. De la même façon qu'on peut trouver des staphylocoques dorés résistants chez le chien, qui sont transmis par leur propriétaire. Voilà. Mais c'est pas pour autant que, par exemple, les populations qui ne sont pas exposées, tout le monde n'est pas éleveur de porc. Donc, toutes les autres populations ne sont pas exposées à ce risque-là. C'est pour ça qu'il faut bien... faut pas nier la transmission. Elle existe dans les deux cas. Mais il n'y a pas un secteur qui alimente l'autre de façon massive. Voilà, c'est les données scientifiques sont ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, les plans en agriculture ont vraiment diminué l'exposition chez l'animal. Et on voit bien que ce qui drive la résistance chez l'homme, bah, typiquement, on a bien vu que pendant l'épidémie de Covid, on a eu moins de résistance aux antibiotiques chez l'homme parce qu'on était confiné, parce que la distanciation sociale, parce qu'on portait des mesures, des masques, il y avait des mesures barrières, etc. Maintenant qu'on revient à une vie proche, en tout cas de ce point de vue-là, d'avant, eh bien on voit que cette année, en une année, on a plus de 50% d'exposition aux antibiotiques, enfin de consommation d'antibiotiques dans les tranches d'âge de 5 à 14 ans, qui inclut les enfants, enfin tout ce qui est rhinopharyngite, les maladies virales hivernales, et qui sont le principe. Donc voilà, le fait, on voit bien que la consommation antibiotique humaine suit des pics qui sont centrés sur l'hiver, et on sait bien qu'on administre des antibiotiques pour des infections qui sont essentiellement virales. Et donc on voit bien que ça c'est le gros de l'affaire, et ça n'a pas à voir avec le porc ou autre chose. Donc, on voit bien qu'il y a des déterminants majeurs qui sont liés à chaque secteur, et puis parfois, il y a des passerelles. Voilà. Et ça n'exclut pas qu'il faille aussi traiter les passerelles, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais c'est quand même fou, parce qu'on le sait aujourd'hui que ça ne sert à rien, un antibiotique pour une maladie virale. Pourquoi les médecins continuent de prescrire des antibiotiques pour des maladies virales?
Ah ben ça, il faut leur demander. Oui, il y a plein de raisons à ça. D'autant plus que enfin, plein de raisons. Si on les connaissait, si c'était facile, sans doute que ça serait fait déjà. Mais c'est vrai que quand on regarde d'autres pays qui ont des niveaux de soins tout à fait comparables, les Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas n'ont pas du tout la même consommation d'antibiotiques chez l'homme que la France a. Hein. D'ailleurs, le staphylocoque doré résistant à la méticilline dont je parlais tout à l'heure, aux Pays-Bas, à l'époque de cette transmission par le porc, il n'y en avait quasi pas à l'hôpital. Et il y avait 30% à peu près en France. Voilà. Donc il y a probablement des aspects culturels qui font que le français veut un antibiotique pour aller mieux. C'est de loin pas partagé partout. Donc je pense qu'il y a, dans ce sujet-là, qui a été essentiellement médical pendant longtemps, maintenant qui est partagé avec le domaine vétérinaire et les problématiques environnementales. Je pense qu'il faut aussi que les sciences humaines et sociales s'approprient ce sujet-là pour aussi apporter des solutions dans la façon dans la relation qu'on a aux médicaments. Quoi, voilà.
Et du côté des enfants, du coup, est-ce que quand même ça baisse leur exposition aux antibiotiques? Et est-ce que si on n'est pas traité aux antibiotiques, ou moins, on a moins de chances quand même d'avoir une bactérie multirésistante, enfin d'être contaminé par une bactérie multirésistante.
Ben, si on utilise un antibiotique, on a plus de chances de sélectionner une bactérie résistante. Donc, c'est pas anodin un antibiotique, ça sélectionne de la résistance. Donc, effectivement, s'il est inutile, faut pas le mettre. Voilà, parce qu'il y a. Après, là encore, je suis pas médecin, mais pour discuter avec eux, un des aspects, par exemple, qu'ils prennent en compte dans l'usage des antibiotiques dans les maladies virales, c'est la surinfection bactérienne. C'est ce qu'ils craignent de voir arriver, même si c'est viral, qu'il y ait une surinfection bactérienne et que l'antibiotique fasse l'effet contre les bactéries. Bon, globalement, ce qui serait utile aussi, c'est probablement qu'il y ait, parce qu'il existe des systèmes pour différencier, par exemple, une angine bactérienne et une angine virale. On sait que ces tests-là sont très peu utilisés pour des raisons diverses, y compris de temps. Enfin, les médecins disent qu'ils n'ont pas le temps, par exemple, que les consultations sont trop, les journées sont trop chargées, que c'est compliqué voilà. On peut invoquer plein de raisons, hein, mais n'empêche que ces tests-là existent pour distinguer une angine bactérienne d'une angine virale. Si déjà on a une angine virale pure, on traite ça comme un virus. Et si on a une angine bactérienne, là oui, on a toutes les raisons de mettre un antibiotique. Voilà, donc on peut quand même avoir des outils qui permettraient de faire mieux, je pense. Voilà.
Ouais. Et côté des enfants, est-ce que ça baisse aujourd'hui?
Ben, côté des enfants, je dirais non, puisque l'exposition a augmenté de... Enfin, ce sont les données de Santé publique France, de 50% l'année dernière, dans la tranche 5-14, donc on est bien chez les enfants.
Côté animaux, on a beaucoup parlé de viande. L'usage des antibiotiques, on la trouve aussi dans les élevages de poissons. Est-ce que quel est ici les usages par rapport à ces espèces?
Alors, les poissons, l'aquaculture est prise en compte comme n'importe quelle autre filière. La difficulté pour l'aquaculture, c'est qu'on met l'antibiotique pour partie dans l'eau. Hein. Donc, est un milieu ouvert. Alors, il est plus ouvert dans d'autres continents que ce qu'il est en France. Mais parce que dans d'autres continents, on a les poissons dessous, les porcs dessus. On a on a vraiment un système hyper ouvert. En France, c'est pas du tout le cas. Mais il y a un certain nombre d'antibiotiques qui sont utilisés chez les poissons. Et il y a exactement les mêmes suivis de l'usage des antibiotiques en aquaculture et suivi de la résistance aux antibiotiques en aquaculture. Donc on est sur, il y a pas lieu de distinguer l'aquaculture des autres filières en France en tout cas parce qu'elle est pas dominante comme elle l'est dans d'autres pays. Je vais citer l'Asie du Sud-Est parce que l'aquaculture en Asie du Sud-Est est vraiment dominante. Donc là, on pourrait différencier cette filière-là par rapport aux autres, mais en France, je pense qu'il faut la considérer comme les autres. Voilà.
Mais ça pose une question sur l'eau, c'est-à-dire que, comme tu le dis, les poissons, ils sont dans l'eau, c'est un milieu ouvert. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nos eaux sont massivement contaminées aux antibiotiques?
Non, pas du tout. En fait, l'ANSES a produit un rapport en 2020 d'une expertise collective qui avait pour but de faire l'état des lieux de la contamination des milieux. Et ce qu'il en sort, c'est que nos milieux sont quand même aujourd'hui très propres, pas du tout contaminés par des bactéries résistantes ou par des antibiotiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un message très positif. C'est pas le cas partout dans le monde, évidemment. Là, le sujet, c'était de répondre à la question quel est l'état des milieux en France. L'état des milieux en France, il est très bon. Voilà, donc
l'eau potable, par exemple, aujourd'hui.
Non.
Il n'y a pas de sujet de la filtrer.
Non, il n'y a pas de sujet en France sur la contamination de l'environnement.
Ok. Par contre, à l'étranger, oui.
Par contre, à l'étranger, oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent qu'on trouve des bactéries résistantes et des antibiotiques. Je ne veux pas encore stigmatiser l'Inde, mais par exemple, il y a des travaux d'un collègue suédois, un copain qui s'appelle Joachim Larsson, qui a énormément travaillé sur la contamination des milieux par les antibiotiques et qui trouve, j'ai en tête une étude, qu'il a regardé en aval d'industries pharmaceutiques qui produisent des antibiotiques, la concentration de l'antibiotique, et il trouvait, alors de tête, mais je suis à peu près sûr de ce que je dis, de l'ordre de 30 mg par litre d'un antibiotique, sachant que pour soigner un être humain, il en fallait 0,5 en intraveineuse. Donc après, il avait fait des diagrammes assez sympas où il disait que, alors pour le coup, je ne sais plus exactement, mais l'esprit, c'était ça, c'est que avec un seau d'eau en aval de cette usine, je soigne la Suède pendant 3 jours ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on a des gros écarts, des gros écarts dans la pollution de l'environnement entre les pays européens et puis d'autres pays qui sont l'autre extrême de l'échiquier, quoi. Voilà.
Pour continuer sur l'élevage, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de tout simplement interdire l'usage des antibiotiques, en tout cas de façon préventive? Est-ce que c'est possible, ça?
Ah oui, c'est le cas.
C'est le cas?
C'est le cas de façon préventive en Europe, oui.
Mais comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas soigner un par un les animaux. Mais ils ne sont pas tous malades quand on les soigne.
Non, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que y a l'interdiction de la prévention. Il y a aussi une autre façon de traiter qui s'appelle la métaphylaxie. La métaphylaxie, c'est effectivement de prendre en compte le fait que quand on a des animaux qui deviennent malades dans un collectif d'animaux où tout le monde n'est pas malade, il faut traiter ceux qui ne sont pas malades, parce que sinon le lendemain, tout le monde est malade et tout le monde meurt. Donc ça, c'est une pratique qui est autorisée, ça s'appelle la métaphylaxie, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un pourcentage d'animaux qui est infecté dans un troupeau, on traite...
Parce que les maladies sont contagieuses.
Ah oui, oui. Ça veut dire que si on ne traite pas les autres, très rapidement, le troupeau est complètement infecté. Donc ça s'appelle de la métaphylaxie. Ça, c'est autorisé, mais c'est très encadré. Voilà, ça doit être fait dans des conditions extrêmement encadrées. Et ça, c'est lié au fait que l'administration de l'antibiotique, comme de n'importe quel médicament, se fait de façon collective, effectivement, parce qu'on a affaire à des troupeaux. Mais ça, c'est totalement différent de la prévention. La prévention, ça voudrait dire je mets ensemble des animaux, je me dis, tiens, il va sans doute y avoir une infection, donc je donne des antibiotiques avant. Ça, ça n'existe pas, ça, en France.
Ok, ouais. Mais les élevages intensifs où on voit des milliers de poulets, on voit des milliers de porcs qui sont les uns sur les autres, il y a forcément des maladies, non ?
Alors, le côté intensif favorise les maladies, mais ces maladies sont gérées de cette façon-là. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, on ne traite pas de façon préventive ces animaux au motif qu'ils sont dans un environnement industriel. C'est sûr qu'il y a une densité d'animaux qui maintenant d'ailleurs aussi, il y a des réglementations sur le bien-être animal qui jouent aussi sur, sur cette densité-là. Donc on va de plus en plus vers des élevages qui prennent en compte tout ça. Mais évidemment qu'il y a une médecine collective, mais ça, c'est une mesure extrêmement forte d'avoir interdit l'usage préventif de l'ensemble des animaux en l'absence de maladie. C'est ça qui est important.
Et c'était ma question suivante. C'est est-ce que l'étape suivante, en tout cas pour les élevages, c'est de réguler davantage la promiscuité des animaux et de tendre vers des élevages extensifs et non pas intensifs ?
Ben, c'est un peu la tendance, effectivement. C'est un peu ce qu'attend un peu la société aussi, puisqu'on débat beaucoup du bien-être animal et de la façon d'améliorer l'améliorer. Il y a d'autres aussi conséquences à ça, puisque quand on est sur des parcours, par exemple, extérieurs de la volaille, c'est-à-dire quand les animaux sortent, eh ben, on voit bien que ils peuvent croiser aussi un virus de grippe aviaire parce que voilà, donc il y a des équilibres à trouver entre, mais c'est vrai que la question de l'élevage est intrinsèquement posée, intrinsèquement liée à l'usage des médicaments, hein, ça c'est sûr. Donc il y a un équilibre à trouver pour que tout le monde soit satisfait et que ça corresponde aux souhaits de la société et à ses besoins. Mais c'est vrai qu'on utilise moins d'antibiotiques, par exemple chez les bovins, on utilise moins d'antibiotiques dans les élevages extensifs, dans les races allaitantes, par exemple, que dans des élevages laitiers, où on est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans un élevage condensé, avec des animaux qui sont plus proches, qui sont pas du tout élevés dans les mêmes conditions que des élevages de race à viande, par exemple. Donc on voit bien qu'en fonction des types de production, et donc aussi de la densité des animaux, de la façon dont ils sont hébergés, dont ils sont en contact, qu'on a des facteurs de risque différents, effectivement. Voilà.
Est-ce que les animaux meurent aussi de bactéries multirésistantes ?
Oui, alors, bon, par contre, l'échec thérapeutique est quand même pas du tout le même qu'en médecine humaine, notamment parce qu'il y a une dimension économique à la médecine vétérinaire et à la production d'animaux, parce que les animaux ont une durée de vie économique qui est inférieure à leur durée de vie de l'espèce, du fait qu'ils sont élevés pour être mangés, pour être consommés. Si on laisse une poule vivre toute sa vie, elle aura une durée de vie supérieure à la vie qu'elle a économique. Donc c'est intrinsèque au système économique, voilà. Mais effectivement, que si un animal a une bactérie résistante et que c'est responsable d'une infection et qu'il se trouve qu'on veut la traiter, et qu'on peut ne pas y arriver, oui, bien sûr. Oui. C'est plus visible dans la médecine individuelle, c'est-à-dire celle des animaux de compagnie, parce que là, on est assez proche de ce qu'on peut avoir chez l'homme. Donc on peut avoir effectivement, par exemple, un chien qui a des pyodermites, et puis on teste des antibiotiques, puis ça marche pas, il continue. Donc là, on voit bien qu'on a un échec pour résoudre l'infection. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus évident à voir. On est beaucoup plus proche d'une médecine humaine en ville, par exemple.
Est-ce qu'il existe des alternatives médicamenteuses aux antibiotiques qui pourraient jouer un rôle similaire?
Ben, on en cherche, il y a des pistes. On parle beaucoup de la phagothérapie en ce moment, c'est-à-dire le fait d'avoir les phages, les bactériophages sont des virus qui se nourrissent des bactéries, pour faire simple. Et donc, du coup, ce sont des traitements qui sont déjà utilisés chez l'homme, dans certains pays plus qu'en France, par exemple. Mais, par exemple, on a des cas de traitement d'infection ostéo-articulaire sévère chez l'homme, en injectant dans l'articulation une solution qui contient plusieurs types de ces virus-là et qui font un flush d'un coup qui tue toutes les bactéries et qui peuvent être une solution extrêmement efficace, pas forcément en excluant les antibiotiques, mais en faisant en sorte que les antibiotiques arrivent un peu en deuxième ligne et soient pas... voilà. Donc ça, c'est un type de médecine alternative. Bon, on n'a pas la médecine alternative complètement alternative, c'est-à-dire à grande échelle. On ne peut pas acheter un jour un bactériophage dans une pharmacie pour voilà. Donc en fait, l'alternative aujourd'hui, elle est largement pas médicamenteuse. J'exclus les vaccins parce que les vaccins sont aussi une alternative indirecte, on va dire. C'est-à-dire qu'en vaccinant les populations, on évite qu'elles aient des maladies, y compris virales, bien sûr, mais aussi sur infection bactérienne. Et donc, on a un état de population qui est plus sain et c'est un facteur indirect de moindre consommation antibiotique. Bon, j'exclus les vaccins parce que c'est un petit peu différent, mais aujourd'hui, les alternatives à l'antibiothérapie, c'est très clairement des alternatives non médicamenteuses, c'est-à-dire de la prévention, éviter que les animaux ou les gens deviennent malades, une meilleure hygiène, c'est ça vraiment qui peut être la vraie se laver les mains. Enfin, c'est tout bête, mais je veux dire, avoir une meilleure hygiène et avoir une stratégie de prévention, c'est une façon de plus avoir besoin ou moins avoir besoin d'antibiotiques.
Oui, bien sûr. Qui meurt aujourd'hui de bactéries résistantes chez les humains? C'est tout type de personnes ou c'est des personnes plus fragiles?
Bah, oui, il y a le pas de bol. On peut très bien mourir d'une bactérie multirésistante, quel que soit son âge. Après, effectivement, il y a des tranches d'âge qui sont plus... ciblés, notamment, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de mortalité attribuable ou associée, parce que c'est vrai que, par exemple, dans les tranches de personnes plus âgées, on a souvent plusieurs comorbidités, ou des personnes, des personnes fragiles, ou des personnes immunodéprimées, ou des personnes qui sont dans ces états-là, si elles attrapent une bactérie multirésistante, elles ont plus de chances elles ont moins de chances de pouvoir la combattre efficacement que quelqu'un qui est en pleine possession de son système immunitaire. Voilà, donc effectivement, il y a quand même des relations, mais par définition, tout le monde peut avoir une bactérie résistante dans son corps. Tout le monde n'est pas obligé de faire une infection, par contre.
D'accord. Est-ce que le microbiote joue un rôle par rapport à ça?
Oui, le microbiote joue un rôle par rapport à ça. Et alors, il joue un rôle, c'est-à-dire il est impacté par l'usage des antibiotiques, le microbiote, parce que précisément tous les antibiotiques s'éliminent par le tube digestif, ou à peu près tous. Il y en a qui s'éliminent par l'urine, mais qui est stérile par définition. Donc quand un antibiotique arrive dans un compartiment où il n'y a pas de bactéries, c'est mieux de ce point de vue-là. Mais très grande quantité d'antibiotiques, si ce n'est quasiment la totalité, s'éliminent par le tube digestif et donc ont une action sur le microbiote. Donc, le microbiote d'un individu qui est traité aux antibiotiques est impacté versus celui d'un individu qui n'est pas traité aux antibiotiques. Mais le microbiote est impacté par plein d'autres choses, l'alimentation de façon générale, etc. Donc, il y a un lien, effectivement. Mais c'est vrai que le microbiote d'un individu traité aux antibiotiques est impacté, oui, ça c'est sûr.
Mais on a fait un épisode sur le microbiote que je vous invite très chaudement à écouter avec Marc-André Sellos. Potentiellement, si quelqu'un, en tout cas, peu importe, n'a pas pris, qu'il ait pris ou pas des antibiotiques, s'il a en tout cas un microbiote sain, il sera moins infecté ou il développera moins d'infections multirésistantes.
Oui, alors bon, je ne suis pas spécialiste du microbiote, donc je n'irai pas forcément trop dans le détail de ça, mais ça, c'est tout à fait en cohérence avec ce que j'ai en tête que effectivement un microbiote sain soit plus à même de garder un individu en bonne santé, y compris sous antibiotiques, c'est-à-dire que l'impact de l'antibiotique soit moindre
oui,
chez un individu qui a un microbiote qui est plus... Ouais.
Alors, mes dernières questions, elles seront notamment sur notre alimentation. J'ai bien compris que quand on mange de la viande, on ne va pas consommer d'antibiotiques.
Oui.
Est-ce que pour autant, le fait d'être végétarien et de, donc de ne pas être en contact avec des bactéries qui vont être présentes, on l'a dit, dans le poulet, etc., ça fait que ces personnes-là seraient moins susceptibles d'être contaminées par des bactéries multirésistantes ?
Bon, scientifiquement, il y a des études qui ont montré que les poulets issus d'élevage bio versus non bio avaient tout autant de bactéries multirésistantes à la surface.
Ah oui ?
Oui, parce que un élevage bio n'est pas non plus un élevage sans antibiotiques. C'est un élevage où il y a où on a usage d'antibiotiques plus raisonné, moindre, etc. Mais les publications scientifiques n'ont pas fait du tout un distinguo très clair entre ne pas avoir d'antibiotiques et ne pas avoir du tout de bactéries résistantes aux antibiotiques sur la viande. Je pense que ça aussi, ça poserait, je veux dire, c'est plutôt heureux, il faut voir le côté positif des choses, parce que je vois mal comment on pourrait avoir deux filières différentes. Les animaux qui ont droit d'être malades mais qui n'ont pas le droit d'être soignés, et ceux qui n'ont pas le droit d'être malades mais qui vont quand même l'être, et on fait quoi de cela, je veux dire. Donc,
parce que les labels aujourd'hui, est-ce que les labels interdisent l'usage d'antibiotiques ?
Non, les labels minimisent, enfin ont une utilisation raisonnée des intrants, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas du tout d'antibiotiques dans un label bio, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est végétarien, il ne faut pas nécessairement s'attendre, faut pas le faire au motif que... il y a végétarien et puis manger de la viande de la filière bio, c'est deux choses différentes.
Bien sûr.
Manger de la viande de la filière bio n'est pas une garantie de ne jamais être exposé aux antibiotiques, aux bactéries résistantes aux antibiotiques, pardon. D'être végétarien, bon, par exemple, quand vous manipulez du poulet, il y a des bactéries à la surface du poulet. On dit d'ailleurs qu'il faut faire attention de ne pas croiser les bactéries du poulet croiser les aliments, mal cuire, etc. Bon, on peut imaginer quelqu'un qui manipule moins de viande est moins exposé, parce que ça, c'est une source d'exposition. Quelqu'un qui serait que végétarien, il n'y a pas vraiment d'études aujourd'hui qui montrent que ça peut tomber sous le sens qu'on est moins exposé aux bactéries, mais et que les bactéries qu'on trouverait sur les végétaux seraient moins exposées aux antibiotiques, forcément, puisqu'il n'y a pas d'utilisation d'antibiotiques en Europe pour les maladies végétales.
Voilà. Parce qu'il y a des pays où il y a des antibiotiques pour les maladies végétales.
Ben oui. L'usage des antibiotiques est totalement interdit en santé végétale en Europe, mais ce n'est pas le cas du tout dans le reste du monde. Hein.
Incroyable.
Ah oui, on pulvérise par hélicoptère des antibiotiques sur des cultures dans certains pays.
Oh là là.
Ce qui n'est pas le cas du tout en Europe. Voilà. Donc, bon, quand on est végétarien, on peut imaginer qu'on a peut-être une exposition moindre à la filière animale par rapport aux bactéries, encore une fois, hein, pas par rapport aux antibiotiques, parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans les aliments issus des filières animales.
Deux dernières petites questions. Plus large de conclusion, ma question, c'est quoi pour toi la mesure à promouvoir auprès du gouvernement pour une alimentation plus saine, plus durable ?
Par rapport au sujet des antibiotiques ou...
Les deux.
Ça dépend le gouvernement. moi, je suis un peu focus sur les gouvernements non européens, voilà, parce que je pense que on est très loin du compte en termes d'alimentation durable dans le reste du monde, mais c'est vrai que la tâche est beaucoup plus difficile que dans nos pays à nous, parce que ce qui impacte l'alimentation durable, on le voit bien dans le cadre des actions de la FAO, c'est tout autant les problèmes de santé animale que les autres problèmes de déplacement de population, de guerre, de corruption, etc. Donc c'est difficile de conseiller un gouvernement non européen qui serait dans cette situation-là en n'ayant qu'un angle santé. Voilà. Et on voit bien que, nous par exemple, on a un plan éco-antibio qui marche très bien en France. On voit bien qu'on ne peut pas faire un plan éco-antibio copier-coller en Thaïlande, par exemple, pour changer un peu de pays par rapport à l'Inde, et dire ça va marcher. De la même façon, on ne peut pas le faire en Madagascar. C'est-à-dire que pour avoir une alimentation durable, il faut agir sur l'ensemble des composantes du système de production. Si on dit juste aux Thaïlandais arrêtez d'utiliser l'antibiotique comme on l'a fait en France, ou utiliser moins, ça ne va pas marcher parce que c'est tellement consubstantiel du système de production. En France, ça a marché parce que le système est quand même solide. L'antibiotique n'était pas une béquille au système agricole. Le système agricole français se tient par lui-même. Et donc, on a réduit l'usage des antibiotiques dans un système totalement en place. Si on veut une alimentation durable, ce qu'il faut, c'est changer les pratiques en profondeur. Donc, c'est vrai qu'en France, on a encore renforcé le côté prévention, etc. Si on veut le faire en Thaïlande ou à Madagascar, il faut complètement changer le système de production. Donc, le conseil à ce moment-là pour ce genre de gouvernement, c'est de revoir leur copie complètement. Bon, c'est facile à dire sur des pays aussi pauvres que Madagascar, par exemple, il y a eu d'autres problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas voir la mesure antibiotique comme la solution miracle à ce dont on a discuté depuis tout à l'heure. Dans ces pays-là, faut revoir le système de production, vraiment.
Et en France, ce serait quoi la prochaine mesure à prendre ?
Ben, en France, là encore, je pense que alors ça dépend si on élargit au-delà des antibiotiques, puisque il y a toute la problématique de la prise en compte du bien-être animal qui va impacter fortement les systèmes agricoles. Par rapport aux antibiotiques, l'objectif, c'est de maintenir les niveaux d'aujourd'hui, parce que un des débats, c'est est-ce que on peut se passer d'antibiotiques demain en agriculture. Et donc ça, effectivement, ça peut être une forme de promesse, d'objectif, on va dire, et qui peut être atteignable, mais qui va pas aller jusqu'à l'absence d'antibiotiques. Donc, je dirais que l'objectif pour un gouvernement français, c'est de maintenir ce bon niveau d'exposition qui est moindre qu'avant et qui arrive à un certain seuil palier quand même, parce qu'il est hors de question de passer le seuil du bien-être animal, de la mortalité excessive de l'animal. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on atteint des seuils bas. Le challenge, c'est les garder. Voilà. Et donc, c'est d'avoir une vigilance sur ça. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Et ça passe aussi par l'image de l'antibiotique. Je faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps sur cette image qui est très négative, je trouve, auprès du consommateur. Personne ne veut des antibiotiques associés à l'agriculture, de façon générale. Mais par contre, très positif quand il s'agit de soigner des enfants. Voilà.
Ça change quand même, non ? Enfin, je sais que moi, personnellement, on donne un antibiotique à mon enfant, je suis déprimé. Hein.
Je suis
déprimé.
Ah, déprimé, ouais. Ben, ça change, oui. Disons qu'en tout cas, c'est pas utile d'avoir ces deux images, ces deux représentations qui s'opposent. Moi, je pense que pour les antibiotiques, ça serait bien de se poser et de dire, ben voilà, l'amoxicilline, on n'en trouve plus pour les enfants là, en ce moment, mais on l'utilise en élevage aussi, etc. Dans 30 ans, qu'est-ce qu'on veut pour l'amoxicilline pour tout le monde ? Posons-nous. À quoi elle va servir dans 30 ans ? On la veut pour quoi ? Pour soigner quoi ? Pour traiter quoi ? Etc. Donc, on en a besoin où ? Et on dit, ben voilà, l'antibiotique, il est bon, c'est une molécule miracle, il est bon dans tous les secteurs, y compris en agriculture, à condition que dans tous les secteurs, il soit utilisé correctement pour répondre à un besoin très identifié. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut arriver à... C'est cette recommandation-là que je ferai au pouvoir public, d'arriver à atteindre cet équilibre de dialogue entre les différents secteurs sur les besoins que chaque secteur a des antibiotiques et de le tenir plutôt que d'agir en cascade dans une politique qui est pour l'instant encore plutôt punitive pour le monde agricole et assez souple pour le monde médical. Il y a très peu de contraintes, voire pas du tout dans le monde médical. Et donc on voit bien que là, si on veut faire vraiment ce qu'on appelle du One Health, d'une seule santé, on arrive à le faire au niveau scientifique, voilà, les bactéries se transmettent, machin, voilà. Mais au niveau politique, d'avoir un projet politique qui soit vraiment intersectoriel, ça, je pense que ça serait ma recommandation extrêmement forte, qui inclurait évidemment l'alimentation durable, parce qu'on est tous liés. J'entendais un médecin récemment qui me disait, moi, s'il n'y en a plus qu'un à soigner, c'est l'homme, ben, je choisis l'homme. On a envie de lui dire, mais ok, mais tu vas quand même manger. Donc, on ne peut pas juste épurer les priorités, les hiérarchiser, et puis on se dira, de toute façon, Après, s'il n'y en a plus qu'un, ben, ça sera l'homme. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on est vraiment dans une approche une seule santé, il faut considérer l'ensemble du monde vivant et se dire, ben, OK, il y a des impacts, il y a des besoins, posons-nous autour de la table et adressons la question des antibiotiques de façon réellement, politiquement, intersectorielle, en disant, on en a besoin là et là et là, et mettons les moyens pour... N'opposons pas les professions ou les secteurs par rapport à cet usage-là. Voilà.
Un conseil de lecture ou de film, de reportage pour celles et ceux qui souhaitent s'informer encore sur la question ?
Un podcast de l'ANSES sur les antibiotiques, on a fait il n'y a pas très longtemps. Alors, bon, le grand public est probablement le plus difficile à qui on peut proposer des choses parce que il y a peu de choses grand public en fait. Il y a des ouvrages.
Il n'y a pas de documentaire?
Il y a sans doute des documentaires, mais de là à dire celui-ci. Ouais. Pour son objectivité générale, moi, je pousserai pas le grand public vers des documentaires. Moi, j'ai vu des documentaires à charge dans un secteur ou dans l'autre. Je pense que c'est pas utile ça. Je pense qu'il faut plutôt les orienter vers des choses, voilà, qui ne soient pas ni militantes, ni opposantes. Enfin, je veux dire. Et je pense que le grand public, ben, peut-être que ça revient à la question du départ, c'est pourquoi les gens ils savent pas trop si c'est dangereux, pas dangereux. Enfin, ils sont beaucoup plus informés sur les virus classiques que sur l'antibiorésistance. Et donc peut-être qu'il y a une faille là. Peut-être qu'on est collectivement pas assez bon pour informer le public sur ce que c'est. La preuve, c'est que quand on veut chercher un ouvrage qui leur explique clairement ou un documentaire, ben, c'est pas si facile à trouver, quoi.
Ouais, ouais. On fait peut-être encore une fois pas assez de biologie aussi dans les écoles.
Ouais. Ben, je vais tourner bientôt un podcast pour le ministère de l'Éducation nationale en décembre.
Ah ben voilà.
Je suis très content que, ben, qu'ils s'intéressent à ça pour mettre dans les écoles à la fois les notions de biologie, de microbes, d'hygiène, etc. Donc, je sais pas ce qu'ils vont poser comme question, mais en tout cas, le but c'est que ça intègre effectivement des programmes d'éducation, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Ben, de rien. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Écotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.écotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.